Essai sur la délicatesse de goût et la délicatesse de passion. Certaines personnes sont sujettes à une certaine délicatesse de passion qui les rend extrêmement sensibles à tous les accidents de la vie, qui leur donne une vive joie à chaque événement heureux et une profonde tristesse quand elles rencontrent l'infortune et l'adversité. Les faveurs et les bons offices déclenchent facilement leur amitié, alors que la plus petite offense provoque leur ressentiment. Tout honneur, toute marque de distinction les exalte au-delà de toute mesure, mais elles sont touchées d'une manière aussi sensible par le mépris. Les hommes de ce caractère, à n'en pas douter, ont des joies plus vives et des chagrins plus amers que les hommes d'un caractère calme et froid. Mais, tout bien pesé, je crois qu'il n'est personne qui, étant entièrement maître de sa complexion, préférerait avoir le second caractère. La bonne ou la mauvaise fortune ne dépend pas de nous, et quand une personne de ce tempérament sensible rencontre une infortune, la tristesse ou le ressentiment prend entièrement possession d'elle, et la prive de tout goût pour les choses communes de la vie, dont la jouissance complète forme la part essentielle de notre bonheur. Les grands plaisirs sont beaucoup moins fréquents que les grandes peines, de sorte qu'un tempérament sensible doit moins souvent éprouver les premiers que les dernières. Sans compter que les hommes qui ont de si vives passions sont enclins à être conduits au-delà des bornes de la prudence et de la raison, et dans la conduite de leur vie, de faire des faux pas, souvent irréparables. On observe chez certains hommes une délicatesse de goût qui ressemble beaucoup à la délicatesse de passion, et qui produit la même sensibilité à tous les genres de beauté et de laideur que la sensibilité à la prospérité et à l'adversité, aux services reçus et aux torts subis. Quand on présente un poème ou un tableau à un homme qui possède ce talent, la délicatesse de ce qu'il ressent fait qu'il est touché de manière sensible par toutes ses parties. Les traits de maître ne sont pas moins perçus avec un goût exquis et un plaisir que les négligences et les absurdités avec dégoût et malaise. Une conversation raffinée et judicieuse lui donne le plus grand plaisir. La grossièreté et le manque de pertinence lui infligent une grande punition. En somme, la délicatesse de goût a le même effet que la délicatesse de passion. Elle élargit la sphère de notre bonheur et de notre malheur, et nous rend sensibles aussi bien aux souffrances qu'aux plaisirs qui échappent au reste de l'humanité. Je crois cependant que tout le monde sera d'accord avec moi pour reconnaître que malgré cette ressemblance, il faut autant désirer et cultiver la délicatesse de goût qu'il faut déplorer la délicatesse de passion et y remédier. Les bonnes et les mauvaises choses de la vie ne dépendent que très peu de nous. Mais nous sommes assez maîtres des livres que nous lisons, des distractions que nous partageons et des amis que nous fréquentons. Les philosophes se sont efforcés de rendre le bonheur entièrement indépendant de toute chose extérieure. Il est impossible d'atteindre à ce degré de perfection. Mais tout homme sage s'efforcera de placer son bonheur surtout dans des objets qui dépendent de lui, et ce qui ne peut être atteint par aucun autre moyen le sera par la délicatesse de sentiment. Quand un homme possède ce talent, il est plus heureux par ce qui plaît à son goût que par ce qui satisfait ses appétits. Et il reçoit plus de joie d'un poème ou d'un raisonnement que du luxe le plus coûteux. Quelque connexion qu'il puisse exister originellement entre ces deux sortes de délicatesse, je suis persuadé que rien n'est si propre à nous guérir de cette délicatesse de passion que de cultiver ce goût plus élevé et plus raffiné qui nous rend capables de juger du caractère des hommes, des compositions de génie et des productions des arts nobles. Le goût plus ou moins important pour les beautés manifestes qui frappent les sens dépend entièrement de la plus ou moins grande sensibilité du tempérament, mais en ce qui concerne les sciences et les arts libéraux, le bon goût est dans une certaine mesure identique à un jugement solide ou du moins il en dépend tant qu'ils sont inséparables. Afin de juger correctement d'une composition de génie, il y a tant de points de vue à considérer, tant de circonstances à comparer. Il faut une telle connaissance de la nature humaine que seul celui qui possède le jugement le plus solide pourra faire une critique acceptable d'une telle réalisation. Et c'est une nouvelle raison de cultiver le goût pour les arts libéraux, Notre jugement se fortifiera par cet exercice. Nous aurons de plus justes idées de la vie. De nombreuses choses qui plaisent aux autres ou les affligent nous sembleront trop frivoles pour retenir notre attention, et nous perdrons par degrés cette sensibilité, cette délicatesse de passion qui est si incommode. Mais peut-être suis-je allé trop loin en disant qu'un goût cultivé pour les arts raffinés éteint les passions et nous rend indifférents aux objets que les autres hommes poursuivent si ardemment. En réfléchissant davantage, je m'aperçois qu'elle augmente plutôt notre sensibilité à toutes les passions douces et agréables, en même temps qu'elle rend l'esprit incapable d'éprouver des émotions grossières et tumultueuses. Ingenuas didicisse, fideliter artes, emollit mores, nexinit esse feros. L'étude assidue des beaux-arts adoucit les mœurs et en corrige la rudesse, nous dit Ovide. Je pense que l'on peut assigner à cela deux raisons très naturelles. En premier lieu, rien n'améliore plus le tempérament que l'étude des beautés, que ce soit de la poésie, de l'éloquence, de la musique ou de la peinture. Elles donnent une certaine élégance de sentiment qui demeure étrangère au reste des hommes. Les émotions qu'elles suscitent sont douces et tendres. Elles détournent l'esprit de la précipitation des affaires et de l'intérêt. Elles favorisent la réflexion, disposent à la tranquillité et produisent une agréable mélancolie qui, de toutes les dispositions de l'esprit, est celle qui convient le mieux à l'amour et à l'amitié. En second lieu, la délicatesse de goût est favorable à l'amour et à l'amitié car elle limite nos choix à peu de personnes et nous rend indifférents à la compagnie et à la conversation de la plupart des hommes. Dans le monde, vous trouverez rarement des hommes du commun, quelque puissant que soit le jugement dont ils sont dotés, qui soit très subtil pour distinguer les caractères et repérer ces insensibles différences et gradations qui font qu'un homme est préférable à un autre. Celui qui a un jugement passable suffit à leur divertissement. Ils lui parlent de leurs plaisirs et de leurs affaires avec la même franchise qu'ils auraient avec un autre. Et trouvant qu'il en est d'autres qui sont susceptibles de prendre sa place, ils ne ressentent jamais aucun vide ni aucun manque en son absence. Mais, pour faire usage de l'allusion d'un célèbre auteur français, M. de Fontenelle, le jugement peut être comparé à une montre ou une horloge. La machine la plus ordinaire est suffisante pour donner les heures, mais seule la plus élaborée peut indiquer les minutes et les secondes et distinguer les plus petites différences de temps. Celui qui a bien assimilé sa connaissance des livres et des hommes n'éprouve de plaisir qu'en compagnie de quelques amis choisis. Il sent trop vivement à quel point les autres hommes ne répondent pas aux idées qu'il a nourries. Et comme ses affections se limitent ainsi à un cercle étroit, il n'est pas étonnant qu'il les pousse plus loin que si elles étaient plus générales et indistinctes. La gaieté et les plaisanteries d'un compagnon de boisson développent en lui une solide amitié. Et les ardeurs d'un appétit juvénile deviennent une passion élégante. David Hume, 1741. Traduction originale de M. Philippe Folliot, professeur de philosophie au lycée Angot de Dieppe en Normandie.